Bonjour à toutes et à tous, merci d'être ici. Cette rencontre est intitulée « Réalité » avec un S de l'exil. C'est ce que tente, je crois, sous des formes et des récits très différents, de raconter Amadou Barry et Taina Tervonen. Merci à vous d'être là, bienvenue ici à Pompidou, à Effraction. Ce que vous tentez, l'un et l'autre, c'est de faire entendre des voix, celles des exilés, mais aussi celle des résistants, que vous appelez autrement Taina, mais on en parlera tout à l'heure. Vous tentez tous les deux, ou vous avez envie tous les deux, de prendre ou donner la parole pour faire savoir, mais aussi pour rendre justice et certainement aussi réparer les silences. Taina Tervonen, vous êtes journaliste. Alors, journaliste, j'ai lu quelque part que vous étiez décrite comme une journaliste spécialisée dans la migration, c'est le cas de fait, mais pas seulement, on en parlera aussi. L'éveilleur, c'est votre troisième livre, publié chez Marchiali. Dans ce livre, vous faites récit des actions de Maria, Hervé, Saliou, Marie Dupont et Marie Cosnet. Ils forment un réseau informel qui cherche les disparus de la Méditerranée et de l'Atlantique. Ils écoutent, ils reçoivent des messages, cherchent, aident et dénoncent. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils notent tout, le nombre de personnes, de femmes, d'enfants, d'hommes, d'où ils viennent, l'heure à laquelle le bateau part. Ils notent aussi les morts, les disparus et les rescapés. Vous allez recueillir les paroles de ces cinq personnes engagées, persuadés de ce qu'ils font, plus qu'engagés même. On verra comment ils s'impliquent, à quoi servent leurs actions, et nous verrons aussi en quoi vous vous impliquez, vous, par l'écriture et par votre métier de journaliste, peut-être même qu'avec ce reportage, puisque c'est un reportage, puis ce livre, vous vous êtes impliqué d'une manière un peu différente par rapport aux autres fois. En tout cas, ce livre nous pose aussi des questions sur notre propre implication, nous lecteurs, et pose des questions sur la société d'aujourd'hui face aux migrants. Migrants, c'est un mot que vous n'aimez pas, Amadou Barry. Dans Journal d'un exilé, votre premier roman paru aux éditions Julliard, vous choisissez plutôt le mot d'exilé plutôt que migrant, et vous nous expliquerez pour quelle raison. En tout cas, votre narrateur, puisque c'est bien un roman, préfère le mot exilé. C'est le récit de Dramé, exilé guinéen, sans papier, qui arrive à Paris après avoir passé quelques mois en province. On en parlera d'ailleurs de la province, parce qu'il est très dur vis-à-vis de la province. Et il décide d'écrire dans son livre le récit de son ami, de son compagnon d'infortune, qui s'appelle Faudier, qu'il vient lui de Côte d'Ivoire, et qu'il avait accueilli dans sa tente, qu'il l'avait pris sous son aile, aidé, accompagné, l'aidé à trouver du travail aussi, qu'il lui avait parlé littérature, écriture, et c'est pour lui rendre hommage après sa mort, pour lui donner la parole, qu'il décide de prendre la plume et de parler de lui. Alors il ne fait pas que parler de lui, il fait le récit d'autres exilés, il fait son propre récit, il rend hommage à la littérature, et il est en colère aussi, en colère. Il résiste et il y a peut-être aussi une forme d'espoir dans ce livre-là. Alors voilà, un roman et un récit de l'autre côté. Nous verrons comment vous questionnez peut-être les mêmes choses. Et c'est peut-être la question d'abord du silence que vous, tous les deux, vous interrogez à travers vos deux livres très différents. Taina Tervonen, je vais commencer par vous, vous qui travaillez et questionnez les migrants, les circulations, les exilés depuis quelque temps, la mort aussi, à travers votre travail. Comment est venue cette histoire? Je crois qu'elle est venue à vous. Comment cette organisation vous est parvenue à vos oreilles, et à quel moment vous avez décidé finalement de nous en parler?
Alors peut-être je vais commencer en disant quelque chose sur le mot migrant, qui est un mot que je n'utilise plus depuis plusieurs années déjà en tant que journaliste, que je retrouve dans mes articles relus par la rédaction et qui me reviennent, et où je le barre et où je l'enlève et je le remplace par un autre mot. C'est un mot qui aujourd'hui anonymise les personnes qui circulent. Et c'est un mot qui stigmatise. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Les images que ce mot-là fait apparaître dans notre imaginaire sont des choses qui oublient que ce sont des individus. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que que je l'ai vécu et que j'ai considéré que moi, ma responsabilité en tant que journaliste n'était pas de conforter cette anonymisation, mais plutôt autre chose. Et que, après tout, toutes les langues sont quand même très, très riches pour désigner des êtres humains. On peut parler d'hommes, de femmes, d'enfants, d'adolescents, de voyageurs, de rêveurs, d'aventuriers. Les langues sont riches pour ça. Voilà. Moi, ça fait 25 ans, je travaille sur les questions liées à la migration. Je suis une migrante moi-même, s'il faut utiliser ce mot-là. Je ne suis pas française au départ, je suis née finlandaise. J'ai grandi en Afrique et je suis arrivée en France pour faire des études et ensuite pour travailler. Donc, les raisons de ma migration, de mes migrations, ne sont pas si différentes de celles que peuvent avoir des personnes avec qui j'ai grandi en Namibie ou au Sénégal. En tout cas, moi, je ne vois pas de différence et je ne vois pas de raison de juger les raisons des autres. Enfin, ce que je sais, c'est que ce sont des décisions toujours importantes pour qui que ce soit et dont les conséquences nous portent parfois très loin et dont les conséquences, on ne peut pas forcément les percevoir au moment où on prend cette décision-là. Mais peu importe, ce n'est pas aux autres de juger cette décision. Petite parenthèse.
Cela dit, alors, dans ce cas-là, restons sur le choix du mot migrant et on reviendra sur la rencontre avec les cinq personnes, puisqu'on y est. Parlons aussi de ce choix du mot migrant. Je vais vous lire, Amadou, en tout cas ce que vous faites dire à votre narrateur. J'ai décidé en mon âme et conscience de récuser le terme migrant, puisqu'il est devenu péjoratif, tout le monde l'emploie, c'est la mode, et si cela ne vous convient pas, tant pis, les exilés aussi ont un peu d'honneur à sauvegarder. Vous voilà prévenu, pas de figure de style, je vais parler comme je peux, etc., etc. Le choix aussi de ne pas utiliser le mot migrant, dites-nous précisément si vous rejoignez Taina Tervonen sur ce choix-là.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Taina, et ce mot a cessé d'être neutre. Et c'est tout le problème. Et quand un mot devient, au fil du temps, au fur et à mesure que les gens l'emploient, le détournent ou essaient de le coller à une partie de personnes et en essayant de les anonymiser à travers ça, je pense que les gens doivent prêter attention et regarder pourquoi est-ce que, que ce soit dans les médias, que dans la vie de tous les jours, il y a certains qui insistent pour que ce mot soit employé et que le terme exilé, par exemple, qui peut correspondre aux mêmes catégories de personnes, n'est pas employé. À partir de là, moi, je suis allé voir dans le dictionnaire. Quand vous prenez dans le Robert, si je ne me trompe pas, ça renvoie tout de suite à l'aspect économique, c'est-à-dire les migrants, c'est très souvent des gens qui se déplacent pour une seule raison, des raisons économiques. Donc à partir de là, tout ce qui se déplace pour d'autres problèmes, on essaie de les ignorer. Et je me suis dit non, il faut aller au-delà, il ne faut pas retenir ce mot, parce que ce mot, il enferme tout simplement une catégorie de personnes et qui est dans la réalité. Ça relève d'une connotation négative, vous le voyez ou pas, plus ou moins, même si certains ne l'emploient pas dans ce sens. Mais je pense que ce mot n'est plus neutre. C'est pourquoi mon narrateur a décidé de le récuser.
On reviendra sur votre narrateur. Je reviens vers vous, Taina, sur comment est arrivée cette histoire à vos oreilles et à quel moment vous avez décidé de nous la raconter.
Alors, l'histoire, effectivement, m'arrive. En général, c'est moi qui vais chercher les histoires. Donc, je frappe à certaines portes parce que j'ai des questions qui sont les miennes et que j'ai envie d'aller creuser. C'est pas du tout ce qui s'est passé avec cette histoire-là. Cette histoire m'est arrivée par des messages WhatsApp qui m'indiquent qu'il y a un certain nombre de naufrages qui ont eu lieu entre le Maroc et les îles Canaries, que personne n'en parle, que les bateaux sont partis à telle date, à telle date, à telle date, qu'il y a eu tant de personnes, tant de personnes, tant de personnes, les bateaux sont partis, jamais arrivés, donc tant et tant et tant de disparus, et la presse n'en parle absolument pas. Moi, à ce moment-là, ça fait 6 ans à peu près que je travaille quasiment non-stop sur des questions de disparition. de disparition dans deux contextes très différents, c'est-à-dire d'une part les disparus de la guerre en Bosnie-Herzégovine, la Bosnie-Herzégovine que j'ai fréquentée pendant une dizaine d'années de façon assez assidue, où j'ai suivi le travail d'une enquêtrice et d'une anthropologue judiciaire qui travaille sur les disparus. Donc je suis allée dans les morgues, sur des charniers, etc. J'ai rencontré des familles de disparus. Et j'ai travaillé sur la disparition dans le contexte de la migration. Donc en suivant le parcours possible de victimes d'un naufrage qui a fait plus de 800 morts en avril 2015 et en me rendant à certains endroits qui étaient de lieux de passage de ces personnes jusqu'à arriver dans les villages dont ils étaient originaires et rencontrer leurs familles. On ne fréquente pas, je crois, les disparus indûment, enfin voilà, sans que ça nous laisse des traces. Et moi, j'avais besoin de faire une pause et j'ai décidé de raconter d'autres histoires. Ce que j'ai fait, d'ailleurs. Mais là, arrivent ces messages WhatsApp avec une demande extrêmement claire. Nous voulons alerter la presse. Puisque personne n'en parle, nous voulons alerter la presse. Il faut qu'on sache ce qui est en train de se passer. Et c'est comme ça que, quelques temps après, j'assiste à un naufrage en direct. C'est-à-dire qu'un bateau est en train de dériver sur l'Atlantique entre le Maroc et les Canaries. Je sais que le bateau est en train de dériver parce que je reçois les messages WhatsApp de quelqu'un qui est en contact direct avec les personnes sur le bateau. On sait combien ils sont, on sait combien sont déjà tombés à l'eau, on sait que les secours ne sont pas partis. Enfin, on sait que les secours côté espagnol sont partis, mais ont fait demi-tour. On sait que les Marocains devraient partir, mais qu'ils ne sont pas partis. Et c'est un dimanche après-midi qui s'écoule comme ça, en même temps sur l'Atlantique et en même temps chez moi. Et moi, j'ai l'impression que le bateau est dans mon salon. Donc, voilà. Et cette simultanéité est très étrange. Évidemment que moi, je travaille avec cette réalité-là depuis très longtemps, mais jusqu'à présent, le bateau, il n'avait jamais vogué dans mon salon. Et j'avais fait très attention à ce que le bateau ne rentre pas dans mon salon. Or, là, il est là. Et c'est comme ça que ça commence. Et donc, j'essaye de répondre à la demande qui m'est faite, qui est d'alerter la presse. Moi, je sais que ça va être très compliqué parce que... parce que la presse n'en veut pas de ces histoires. Moi, je travaille comme journaliste indépendante, comme pigiste. Je ne suis pas salariée d'une rédaction. Et donc, j'essaye quand même. Je fouille un peu plus. Je commence à comprendre comment ces informations arrivent à la personne qui me contacte. Je comprends qu'elle n'est pas toute seule. Je comprends qu'ils sont quatre autres. Et c'est avec l'accord des quatre autres qu'elle m'a contactée. Et que voilà, les preuves sont là, les sources sont là, enfin, en termes journalistiques. Il y a tout ce qu'il faut pour faire une enquête, sauf que moi, je ne travaille pas depuis derrière mon ordinateur, j'ai besoin d'aller sur place. Donc, ça demande des moyens, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Et ça, les médias me répondent, on n'a pas les moyens, on arrive en fin d'année, on n'a plus de budget. Et puis, vous comprenez, nos budgets pour les pigistes sont de plus en plus serrés. Et puis, de toute façon, c'est une enquête sur 4 pages, sur 6 pages, on n'a pas la place. Enfin, je connais ça par cœur, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Et c'est ce que je soupçonnais. Quand la demande d'alerter la presse m'a été faite, mais en même temps, je ne pouvais pas leur dire « je ne vais rien faire, c'est pas possible ». Et le printemps passe comme ça. Le premier contact, c'est en tout début janvier. Le printemps passe comme ça et voilà, je suis tenue au courant d'un certain nombre de naufrages et arrive aussi un moment où le message WhatsApp me dit « un bateau est en détresse à cet endroit, tant d'hommes, tant de femmes, tant d'enfants ». La marine marocaine ne bouge pas, voici leur numéro de téléphone. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je me dis, c'est pas ma place, je ne suis pas activiste, je suis journaliste, bon, bref. Et j'ai fini par appeler la marine marocaine, évidemment. Enfin, autre chose n'est pas possible à ce moment-là. Et donc, j'appelle la marine marocaine, bonjour, je suis journaliste, j'ai appris qu'il y avait un bateau en détresse, parti de tel endroit, est-ce que vous avez des nouvelles, etc. Et là, je me dis, il faut que ça s'arrête. C'est-à-dire ma place n'est pas d'être... Enfin, moi, en tout cas, la place que j'ai choisi de prendre n'est pas celle d'une veilleuse. Voilà. Sinon, c'est... Enfin, voilà, je ne peux pas avoir les bateaux qui voguent dans mon salon tous les jours. Et travailler en tant que journaliste sur ces questions-là. Enfin, ces deux places-là ne sont pas compatibles. Pour moi, hein. Peut-être qu'elles sont compatibles pour quelqu'un d'autre. Pour moi, ce n'est pas le cas. Et donc, je me dis... Ce jour-là, il faut vraiment que je trouve une façon de raconter cette histoire et de faire exister ces bateaux. Parce que moi, je suis convaincue qu'il y a une histoire. Hein. Enfin, là, pour moi, il y a zéro doute là-dessus. Et c'est là que je propose aux 5 veilleurs-veilleuses, c'est moi qui les appelle comme ça, d'aller les enregistrer. Je me dis, avec leur voix, ces bateaux vont se mettre à exister. C'est-à-dire que si on n'est pas prêt dans la presse ou dans les médias ou dans le monde occidental dans lequel on vit à entendre les voix des personnes qui sont sur les bateaux, parce que ça, c'est quand même une question à laquelle moi, je suis confrontée depuis 25 ans, peut-être qu'on est quand même prêt à entendre les voix des 5 personnes qui écoutent ceux qui sont sur les bateaux. Et ce n'est pas la première fois, en fait, que je suis obligée de faire une sorte de détour comme ça pour trouver le moyen de faire surgir cette parole-là et cette réalité-là. Et c'est comme ça que ça commence, tous les 5 acceptent, et donc je vais les enregistrer chez eux. Il faut savoir qu'ils sont tous anonymes, sauf une, Marie Cosnay, qui est écrivaine. Tous les 4 autres ont souhaité rester anonymes au moment où je les enregistre. Et ça, ça se passe en 2022-2023.
Et voilà donc ce livre qui raconte ces 5 vies au service de ces personnes qui tentent de traverser ou la Méditerranée ou l'Atlantique. Il y a quelque chose que vous n'avez pas dit dans la présentation tout à l'heure. Effectivement, quand le livre démarre quasiment sur cette histoire que vous essayez de vendre aux journalistes, vous vous posez la question, ou en tout cas vous vous assurez que vous n'êtes pas activiste mais bien journaliste. Vous dites que les journalistes n'ont effectivement pas de budget pour accepter votre histoire, mais vous dites autre chose. Vous écrivez « Je ne peux m'empêcher de penser que le silence les arrange bien ». Je voudrais qu'on aille un peu plus loin sur cette question-là et sur ce que vous voulez dire par cette phrase-là.
Je pense que si on a en tête... En fait, il faut se rendre compte qu'en fait, quand on regarde le nombre de disparitions sur ces routes maritimes, uniquement sur ces routes maritimes, toutes les 40 minutes environ, il y a une personne qui disparaît. C'est-à-dire que pendant que nous, on est en train de parler là, il y a au moins une personne qui disparaît. Et la disparition, ce n'est pas la même chose que la mort, déjà. Il faut avoir conscience de ça. Ce ne sont pas des corps qui sont retrouvés, ce sont des corps qui disparaissent dans l'Atlantique ou dans la Méditerranée. Cette réalité-là, je crois que ne pas y penser, ça nous arrange tous, hein. Enfin, moi y compris. Hein. C'est de ne pas avoir... à ça en tête et d'aller plus loin, à se poser la question de pourquoi on est dans cette situation-là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui voyagent de cette façon-là, avec ces risques-là et avec ces conséquences-là. Pour moi, en tout cas, c'est pas du tout une fatalité. C'est pas que ce sont... La plupart des personnes qui choisissent de voyager comme ça, que moi je rencontre au cours de 25 ans, aimeraient voyager tout à fait autrement, c'est-à-dire en achetant un billet d'avion et en ayant un visa. Parce que c'est quand même moins cher, déjà, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup moins dangereux, évidemment. Sauf que les visas, nos pays à nous, pays d'Europe, ne les accordent pas. Donc qu'est-ce qui reste ? Il reste cette route-là. Et cette responsabilité-là, est-ce qu'on a envie d'y penser ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a envie d'y penser ? Une fois qu'on y pense, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est à tout ça que je fais allusion avec cette phrase-là, qui est peut-être un peu mesquine, parce que c'est pas que ça, moi aussi, ça m'arrangerait bien, le silence.
Mais c'est une phrase qui court tout du long, finalement. Qu'est-ce qu'on fait de ça et qu'est-ce qu'on fait de ce que vous nous racontez ? Il y a quelque chose que vous dit Marie, qui est française, et parfois on lui demande, mais pourquoi toi, une Française comme toi, tu nous défends comme ça ? C'est ce que lui demandent certaines personnes qui la contactent. Et elle répond, c'est comme ça, je suis là pour être à vos côtés, pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous parler. Souvent, c'est ça qui leur manque, qu'on leur parle et qu'on les respecte. Je vous regarde, Amadou Barry, parce que finalement, cette question du respect et de la parole, c'est aussi ce qui tient votre livre du début jusqu'à la fin. C'est se respecter, c'est ce respect-là, c'est considérer ceux qui sont exilés, qui sont installés sous des tentes dans ce tunnel dont vous nous faites le portrait dans votre livre. C'est les écouter et c'est pouvoir leur donner finalement la parole. Est-ce que c'est ça qui a motivé l'écriture de ce premier roman, c'est pouvoir mettre des voix, des visages et rendre une identité à ceux qui, pour beaucoup, n'ont plus de papier ou n'ont pas de papier ?
En effet, je pense que tout part de là, parce que c'est un thème qui est dans l'actualité, qui fait l'actualité et qui ne quitte pas l'actualité. L'immigration, depuis plusieurs décennies maintenant, on peut aller, disons, on peut parler de 3 décennies au moins, est au centre des débats politiques en Occident. Sauf que c'est des débats qui sont organisés entre hommes politiques et... Bon, je ne dirais pas que les personnes concernées, y compris les personnes qui ont fait, disons, ce parcours, qui se sont installées et qui ont gravi les échelons, y compris ces personnes, ne participent pas à ces débats. Maintenant, si on va plus loin, là, on parle de personnes qui n'existent pas concrètement. C'est comme si ces personnes étaient invisibles. Là, je prends en compte cet endroit et il est évident que ces endroits existent dans Paris. Et des tunnels où des gens sont coincés là. Et l'administration a du mal à gérer. Et la société aussi a du mal, disons, à comprendre ce phénomène et à questionner les hommes politiques ou les autorités sur le pourquoi. Mais bon, en essayant, disons, en écrivant ce texte, j'ai essayé un peu de voir s'il y a des exemples parallèles un peu partout en Europe. J'ai trouvé malheureusement que c'est devenu une particularité française. Et j'ai du mal à le comprendre. Peut-être que bon, les spécialistes pourront donner des réponses beaucoup plus factuelles. Mais quand on prend... J'ai sondé, j'ai discuté avec des étrangers... des connaissances qui vivent en Allemagne, j'ai posé la question, la question centrale de mon texte, est-ce qu'il y a des endroits à Berlin, par exemple, où des immigrés se retrouvent coincés comme ça dans des tunnels? Mais la réponse était tout simplement non, parce que là-bas, il paraît que, selon les éléments que j'ai obtenus à travers cette petite enquête, les autorités n'ont pas garanti tout à ces immigrés, à ces exilés, mais ils ont tout simplement refusé que des tentes ou des endroits pareils s'installent dans la ville, en prenant en compte, disons, ce besoin qui est immédiat et surtout en impliquant les organisations de la société civile. Donc tout part de là, c'est vrai, donner la parole à ces gens qui ne l'ont pas réellement.
Alors, ce que peut le roman, et que peut peut-être pas autant un essai ou un récit ou un travail journalistique, le roman nous permet finalement d'être au plus proche, d'être dans la tête ou dans la peau d'un exilé. Ça nous permet une certaine proximité, donc d'autres questions, mais d'être aussi au plus proche de la réalité. Vous vous êtes posé la question finalement de réalité, fiction, et ce qu'on pourrait, nous, en tant que lecteurs, imaginer ou pas, ou vous ne vous êtes pas du tout poser cette question-là?
Si, la question, elle était là du début à la fin, parce que c'est... Si j'allais trop aussi dans la fiction, je pense que ça n'allait pas coller à la réalité, et si je prenais trop en compte la réalité, j'allais tomber dans l'écueil que j'ai tout le temps évité, tout au long de l'écriture de ce texte, c'est-à-dire de faire autrement, le texte d'un journaliste. Et là, c'est le piège dans lequel il ne fallait pas tomber. Donc, je me suis dit qu'il faut que ça colle à la réalité, sans pour autant que ce soit un texte, sans pour autant que ce soit un essai.
Votre narrateur est en colère, on est d'accord?
Un tout petit peu.
Un petit peu. Est-ce que vous avez nourri aussi votre plume avec une certaine colère?
Alors, la colère, non. L'incompréhension, oui. L'incompréhension, j'ai tout le temps bataillé, tout le long de ce texte, en écrivant ce texte mot après mot, j'étais, disons, absorbé, j'étais complètement assailli par une foule de questions. Parce qu'il y a une incompréhension. Le but, et c'est quoi le problème central? C'est qu'en fait, il est évident que ce soit la France ou n'importe quel pays, n'est pas en mesure de donner à chaque immigré qui arrive un logement, disons un endroit où dormir et tout le confort. Parce que tout simplement, même des citoyens français dorment à la rue et c'est des dizaines de milliers de personnes. Par contre, maintenant, ne pas accepter cette réalité qui devient une fatalité qui s'impose à tout le monde, Je pense que ça devrait, disons, interroger plus d'une personne. Et le problème, c'est qu'on assiste à ce qui, disons, Gramsci détestait le plus, l'indifférence. C'est, les gens s'adaptent à ça, ils ne se rendent pas compte.
Vous parlez même de fantômes, vous dites indifférence, mais vous écrivez même fantômes. On était une bonne douzaine d'exilés sans situation, une espèce créée par le génie occidental, ou dont la situation était en cours d'examen, et des brûleurs de frontières, les dublinés, on était autant de fantômes, ceux dont l'administration ne soupçonnait pas l'existence, ceux qui n'avaient pas laissé empreinte et poil à la préfecture. Parce qu'il y a eu cette question-là, il y a ceux qui sont en demande de papier, il y a ceux qui n'ont pas demandé de papier. Ouais. C'est le cas de votre narrateur qui ne veut pas aller demander de papier. Pour quelle raison ?
Il y a la peur. Il y a la peur. Il y a beaucoup qui ont peur de faire ce pas parce qu'ils essaient d'appréhender. Ils essaient de comprendre. Et très souvent, c'est qu'en fait, le cas par cas n'existe pas dans le traitement de ces dossiers. Et ce n'est pas propre à la France. C'est vraiment... Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme... Bon, le roman de Steinbeck, vous voyez la façon dont ces migrants se sont déplacés, la façon dont on les a vus tout de suite comme une menace. Et pourtant, c'est des citoyens américains qui sont déplacés d'un point A vers un point B parce qu'ils se sont dit qu'il y aura du boulot de l'autre côté. Et là, on assiste vraiment ces dernières années à la même réalité. C'est-à-dire, quand on prend dans la catégorisation de ces exilés, il y a des pays où on dit que c'est des pays sûrs. On prend un pays, on dit c'est un pays sûr, donc quand tu viens tout de suite, tu as intérêt à tomber sur une personne qui n'a pas passé, disons, une mauvaise journée ou bien, peu importe. Mais si tu tombes sur une personne vraiment qui n'a pas le temps de t'écouter vraiment, tu viens d'un pays, entre guillemets, sûr, il peut te mettre dans une, disons, te placer tout de suite dans une procédure accélérée et en 2 semaines, on te dit oh, merci, donc tu vas dégager. Donc c'est ça la réalité. Il y a maintenant, parmi ces exilés, il y a certaines personnes qui sont coincées, qui ont cette peur d'aller pour faire cette demande. Et c'est une réalité, malheureusement.
Alors la peur, effectivement, on la sent. La question du fantôme, des fantômes et des invisibles, c'est finalement ce qui vous a nourri tous les deux aussi. Hein. C'est faire entendre ces personnes dont on ne veut pas parler. Vous disiez, Taïna, là, toutes les minutes, il y a quelqu'un qui disparaît en mer. Vous êtes nourris, finalement, tous les deux par ce même souci de dire la réalité, alors je le disais, sous des formes différentes. Taïna, vous qui avez lu le texte d'Amadou, est-ce que justement cette question de l'invisibilisation, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit,
oui, tout
voilà,
fait.
C'est ça, ça vous a effectivement parlé et ça fait écho à ce que vous faisiez?
Oui, c'est vrai que je te tutoie.
Oui, il n'y a pas de souci.
Dans ton roman, tu rends... Tu rends visible des scènes qu'on... Enfin, si on vit à Paris, on les a imaginées, ces scènes-là. Enfin, on s'est rendu... Moi, en tout cas, en lisant ton livre, je les voyais, des endroits très précis, parce que je suis passée à côté, parce que au moment où je passe à côté, moi, je ne suis pas allée discuter avec les gens. Et que, voilà, tu fais exister ces endroits-là d'une autre façon, avec des voix et avec des personnages et avec des individualités. Et je crois que ça, c'est quelque chose, quand on vit dans les grandes villes comme Paris, on a du mal à... C'est comme s'il y avait une barrière, enfin une frontière qui est à cet endroit-là, entre ceux qui sont dans les tentes et les autres. Et que cette frontière, elle est, même dans ton livre, elle n'est pas évidente à franchir. Hein. Parce que quand il y a les bénévoles qui passent, bon, bah, voilà, ils n'ont aucune identité, en fait.
Ouais, c'est
des gens qui passent avec leur thermos, et puis bon, ils se donnent un peu bonne conscience, et puis quand il y a vraiment un problème, ils disent « je suis désolé, je ne peux rien faire ». Et voilà, mais ils n'ont pas d'existence,
ouais.
Tu vois, et que la frontière, en fait, moi, je l'ai perçue à cet endroit-là aussi.
Ouais. C'est vrai, elle est là. Elle est là, la frontière est là. Et très malheureusement, elle se renforce. C'est surtout ça aussi le problème. C'est que la société, disons, les citoyens du pays se demandent comment régler ce problème. Et je ne sais pas, certains hommes politiques se disent que bon, ok, ça les servira de leçon. Pour faire pour obtenir quoi comme résultat? Je ne sais pas, mettre fin à ce qu'ils appellent entre guillemets l'appel d'air, ou je ne sais pas. Mais c'est vraiment une réalité qui est là et qui maintient ces gens dans une situation où ils sont incapables de se dégager, de se libérer. Mm. C'est comme les... Vous voyez ces toxicomanes qu'on voit dans le métro. On a l'impression que les gens s'attendent à ce qu'ils s'en sortent tout seuls. Et pour tout le monde, disons, tout un chacun est au courant que ces gens, si on ne les aide pas, ils ne s'en sortiront pas. Parce que déjà, là, je parle maintenant des toxicomanes. C'est de la drogue dure. Ça prend en otage le cerveau. Mais sauf qu'on a l'impression que la société est indifférente sur la question et se dit, bon, de toute façon, ils se sont retrouvés dedans et de s'en sortir. Mm-hmm. Donc,
Il y a cette indifférence, cette frontière de la société. Ça me fait penser à Marie Cosnet que vous avez rencontrée, qui est la dernière que nous rencontrons dans votre livre et qui raconte, elle, sa prise de conscience, finalement. Parce que quand on écoute Amadou Barry, ça me fait penser à ce qu'elle vous raconte. Elle vous dit que, elle, ça a commencé avec l'occupation de l'église Saint-Bernard par des sans-papiers à Paris en 1996. Il y avait sans doute déjà avant l'insupportable impression d'injustice, vous dit-elle, qui est qu'une partie du monde peut voyager et une autre non, mais le début d'une conscience, c'est là, à Saint-Bernard. C'est à ce moment-là qu'elle devient, elle, d'une certaine manière, plus engagée, une écrivaine plus activiste, et c'est le mot qu'elle utilise et que vous utilisez. C'est finalement, c'est presque cette même prise de conscience qui nous fait, à un moment donné, basculer vers l'utilisation des mots, le pouvoir des mots, écrire un livre pour faire savoir, parce qu'on n'est plus capable, si je comprends bien finalement Amadou Barry, de passer devant sans ne plus rien faire. Est-ce que c'est ce qui s'est passé pour vous aussi? C'est de vous dire à un moment donné, je ne peux pas passer devant sans faire quelque chose.
Oui, oui, c'est tout à fait ça. Rompre ce silence et surtout essayer en quelque sorte, je l'ai essayé à ma plus petite échelle, donc essayer en quelque sorte de poser le débat, mais pas le débat dans le sens des hommes politiques, mais tout simplement dans des cadres pareils, pousser les gens, ceux qui aiment, disons, les lecteurs et tout, à réfléchir à la question, parce que quand on en parle dans les médias, très malheureusement, on ne parle pas de la condition de vie de ces gens, du fait que si rien n'est fait, il y a même des risques d'épidémie ou de maladie. Mais c'est quand il y a un fait divers, là tout de suite c'est pris en compte. Donc ça renforce cette psychose et surtout la peur qui s'installe vraiment dans les sociétés occidentales. Et moi ça me dérange à tel point que si on regarde le monde, on se dit à l'échelle du monde. Les Occidentaux, c'est malgré tout l'endroit au monde où les gens peuvent venir et obtenir un accueil et tout, même si tout le monde n'est pas accueilli et tout. Là, on ne jette pas les gens dans la forêt comme on le fait, disons, au Maghreb, des gens jetés dans le désert, ou en Arabie Saoudite, où plus de 1000 personnes ont été massacrées à la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen en 2023. Mais vous voyez, mais malgré tout, il y a encore des choses à faire parce que les choses ne s'améliorent pas. On a l'impression qu'il y a une régression.
Qu'est-ce que finalement vous faites dire, je ne sais plus si c'est vous qui dites ou c'est Marie Cosnet qui dit, Taïna, que finalement écrire ne changera ou les aider ne changera pas forcément grand-chose, mais en tout cas ça peut changer le regard. Est-ce que c'est ça que vous faites l'un et l'autre avec ce que vous racontez, tenter finalement... C'est donner beaucoup de pouvoir, mais c'est aussi la question du pouvoir des mots et du pouvoir des textes, de changer notre regard, ou en tout cas quelques regards sur une centaine. Est-ce que c'est ça le pouvoir que vous pouvez avoir?
Je ne sais pas si j'ai beaucoup de pouvoir, hein, ça, à vrai dire. Non, je crois que j'en ai pas beaucoup, beaucoup. Après, moi, je me retrouve souvent en tant que journaliste, quand moi je suis sur le terrain, je pense à des passeurs nigériens que j'ai rencontré à Agadez, qui, suite à une loi qui interdisait le transport au-delà d'une certaine limite, les avait rendus, donc, enfin, ils étaient au chômage, quoi, en gros, ils n'avaient plus de travail. Et l'Union européenne leur avait promis des primes de reconversion, et ils attendaient toujours l'argent qui ne venait pas. Et je vous raconte cette anecdote pour vous dire voilà, quel est le pouvoir qu'on peut me donner sur le terrain. Moi, devant ces passeurs-là, j'étais l'Union européenne. Ils me disaient, tu peux pas aller à Bruxelles et puis leur dire que ça suffit comme ça quand même. Enfin, voilà, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'on attend, et puis ça vient pas. Et c'était des sommes dérisoires. Hein. On parlait de... si je me souviens bien, de 2300 euros pour des personnes qui pouvaient gagner jusqu'à 6000 euros par semaine. Donc voilà, c'était des toutes petites sommes et pourtant ça ne venait pas. Et évidemment que moi je ne pouvais pas aller à Bruxelles et dire à la commission, au fait, là il y a les gars qui attendent, là bougez-vous les fesses. Mais ce que je leur ai dit, quand même, à ce moment-là, je leur ai dit, écoutez, vous savez, quand on dit passeur, là, ou coxeur, quand on dit passeur en France, les gens, ils vous imaginent pas vous. Hein. Ils imaginent des criminels qui abusent des gens, qui les violentent, qui les violent, qui les exploitent. Et c'est une criminalité qui existe, hein, soit dit entre parenthèses. Mais ce n'était pas le cas de ces transporteurs. C'était des transporteurs qui transportaient des personnes de manière parfaitement légale d'un pays à un autre. Des personnes qui avaient une liberté de circulation parce qu'on était à l'intérieur de la CEDEAO. Et donc, je leur disais, voilà, si vous me racontez votre réalité, moi, je vais essayer de raconter cette réalité-là-bas à des gens, à des Européens, à des Blancs qui n'y connaissent pas grand-chose et qui vous imaginent d'une façon qui est celle-là. Et peut-être que, bah, s'ils apprennent quelque chose sur ce que c'est votre vie véritablement, la prochaine fois, ils y penseront un peu différemment. Peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, c'est le seul... petit possible pouvoir, éventuel pouvoir que j'ai. Et là où ça me désole parfois, vraiment, enfin, c'est peut-être aussi parce que ça fait longtemps que je fais ce métier, c'est que j'en suis toujours réduite à essayer de faire en sorte que les lecteurs, les lectrices regardent les personnes dont je parle comme des êtres humains. C'est honnêtement, ça. On en est là, on en est toujours là. Et quand on arrive à faire ça, c'est-à-dire quand on arrive à, par le récit qu'on fait, à toucher chez celui qui reçoit le récit quelque chose qui est de l'ordre de son humanité, c'est-à-dire qu'il arrive à se projeter dans l'histoire de la personne qu'il est en train de lire, là, oui, là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et on ne revient pas en arrière de cette chose-là. Et ça, c'est le seul espoir que moi j'ai par rapport à raconter des histoires.
Mmh. Raconter des histoires, et puis pour vos cinq... veilleurs. Pour tous, c'est aussi une question de dignité, d'humanité. Je crois que c'est Saliou qui dit qu'il lutte pour la dignité. Et puis, il y a la question de lien aussi, créer des liens entre les gens, c'est important aussi. Je vais prendre 1 ou 2 minutes pour chacun pour rentrer vraiment au cœur de vos textes. Et puis, je donnerai la parole au public. Peut-être redéfinir, parce que je l'ai dit peut-être trop rapidement, ce que font vraiment les veilleurs. Quel travail ils font précisément. Je disais, ils notent précisément l'heure à laquelle partent les bateaux, le nombre de personnes qui montent sur ces bateaux. Et puis, ce qu'il peut arriver, le pire ou le mieux. Précisez-nous ce qu'ils font vraiment au quotidien.
Alors, ils font chacune des choses différentes. Marie Dupont et Saliou, par exemple, reçoivent des appels en direct de personnes qui partent, qui sont sur les bateaux, de personnes qui font partir les bateaux ou des proches de personnes qui sont sur les bateaux. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des appels en direct pour dire, voilà, un bateau est parti, voilà les informations, ce qui va permettre d'identifier ensuite le bateau et de savoir s'il est arrivé ou pas. Ils reçoivent les appels à détresse depuis les bateaux en direct également. Ils alertent les secours, donc en fonction de la zone maritime dans laquelle se trouve le bateau en perdition. Et ensuite, ils veillent avec les passagers du bateau jusqu'à ce que les secours arrivent ou jusqu'à ce que les secours n'arrivent pas et jusqu'à ce qu'il y ait un naufrage. C'est-à-dire parfois, ils assistent à des naufrages en direct, à la disparition totale d'un bateau en direct. Hervé, lui, il essaye de soutenir les familles qui cherchent des disparus. Il crée un groupe WhatsApp pour chaque naufrage. Et les familles qui le contactent, il a une page Facebook avec 63 000 abonnés, je crois, maintenant. Et donc, les familles connaissent cette page et donc le contact en disant je cherche un tel qui est parti à telle date, est-ce que tu saurais ? Et donc dans ce groupe WhatsApp s'échangent des informations et ça permet aux familles d'avoir aussi d'autres personnes qui sont dans la même situation. Maria, elle tient les comptes. Elle a des tableaux où elle note tous les bateaux partis, tous les bateaux arrivés, tous les bateaux qui ont disparu, le nombre de personnes, etc. Donc elle constitue des archives parce que quand les familles contactent pour un bateau qui est parti il y a 6 mois, par exemple, c'est extrêmement compliqué de retrouver si ces informations ne sont pas centralisées quelque part. Elle va aussi vérifier des sources, c'est-à-dire aller chercher dans des articles de presse. Elle va, elle, à travers les contacts qu'elle a sur le terrain, aller appeler, je sais pas, quelqu'un de la Croix-Rouge, par exemple, pour vérifier qu'un tel bateau est bien arrivé, etc. Et donc, elle cherche des disparus. Il arrive que ces disparus soient retrouvés vivants, mais souvent, on ne les retrouve pas du tout. Et Marie Cosnet, elle, a reçu des appels en détresse en direct, a décidé d'arrêter, c'était trop difficile. Marie Cosnet, à cette époque-là, elle habite à la frontière franco-espagnole et à l'époque où moi je la rencontre, il y a plusieurs personnes qui se sont noyées dans la Bidassoa, qui marque donc le fleuve qui marque la frontière entre l'Espagne et la France, parce qu'il y a trop de contrôles de police, donc les gens essaient de traverser par l'eau et se noient. Et donc il y a des corps. Et donc elle essaye d'identifier ses corps pour pouvoir faire en sorte que le corps soit enterré avec un nom, que la famille puisse être retrouvée, contactée, que la famille puisse dire si elle souhaite un rapatriement du corps ou si elle souhaite un enterrement sur place. On peut penser que c'est simple, mais c'est extrêmement compliqué.
Donc toute une chaîne, finalement, une chaîne humaine qui permet de gérer, je ne le dis pas bien, mais je crois que c'est ça quand même, cette traversée et de rendre une dignité, comme je le disais, à ces personnes qui quittent leur pays. Et pour des raisons, et ça aussi, ils le disent, hein, pour des raisons parfois différentes en fonction des pays d'où l'on vient, mais qui sont toujours des raisons dramatiques. En tout cas, votre personnage, Dramé, a certainement quitté son pays pour une de ces raisons-là. Vous ne le dites pas forcément, ouais. Si ce n'est que vous nous faites comprendre qu'il y a une certaine nostalgie, une certaine tristesse en lui. Il y a des airs de la musique, des odeurs, des couleurs qui lui rappellent son enfance, sa famille. Il y a des choses comme ça que vous nous insufflez pour nous faire comprendre d'où il vient, sa personnalité. Mais vous, votre histoire, c'est vraiment à Paris, dans un de ces tunnels où sont ses tantes, où sont certains exilés. D'âge différent, des hommes, mais aussi des femmes. Il y a différentes histoires qui sont là aussi. Et vous nous racontez une histoire d'amitié entre deux exilés et puis ce besoin d'écrire, le pouvoir des mots, le pouvoir de la littérature aussi, pour raconter là aussi des liens qui se créent. C'est aussi une histoire de dignité, d'amitié et presque de chaîne humaine, si je peux le dire comme ça aussi, pour votre histoire, Amadou.
Oui, oui. Et c'est fondamental, c'est ce qui permet aux exilés de tenir. C'est valable pour tous les hommes dans une situation qui se retrouve dans une situation de précarité, et c'est surtout valable pour les exilés, parce que quand on est dans son pays, quand on vit dans un endroit où on a des proches, où on a plus ou moins les codes de la société, c'est beaucoup plus facile par rapport à celui qui vient d'arriver. Parfois, il ne parle même pas la langue du pays. Donc, si ces liens d'amitié, ces liens de solidarité n'existaient pas entre ces exilés, ils n'allaient pas tenir.
Dans un monde très dur, puisqu'il y a effectivement la peur des autres, de la violence qu'il peut y avoir, des vols pour le peu qu'on possède. Ouais. Il y a les violences aussi des hommes sur les femmes. Il y a une femme qui est là avec eux, qui s'appelle Biba, qui, elle, a souffert de la violence d'un homme. C'est toutes ces solitudes et ces souffrances qui se réunissent dans ce lieu, à Paris, aux yeux de toutes et tous, finalement. Et c'est dans ce tunnel-là que vous nous faites rentrer. J'ai pas oublié l'histoire des provinces, parce que vous nous faites quand même un sacré portrait de la province par rapport à Paris. Dramé a passé 8 mois en province avant d'arriver à Paris. Vous lui faites dire que c'est encore pire en province qu'à Paris. Ça, vous me l'expliquiez un petit peu.
D'accord. Alors, ces dramés, je lui ai donné une petite latitude et il est allé
ça,
loin.
Vous n'allez pas vous cacher derrière
je
ça.
Je n'ai pas pu le retenir et il a fait comme il le voulait. Mais en fait, à ce niveau, je voulais tout simplement attirer l'attention sur un élément très important. En fait, mine de rien, l'organisation, disons, le fonctionnement et le nombre d'ONG, de bénévoles et tout ça, il y a une certaine concentration à Paris par rapport aux villes de province. Et je l'ai constaté quand je faisais mes études de droit à Clermont-Ferrand. Je l'ai constaté que c'est lié à la dimension de la ville, c'est vrai, au budget et tout ce qui, et surtout, sans doute, disons, au moins que disposent les mairies et tout. Mais c'est plus ou moins une réalité. Dans les grandes villes, et surtout à Paris, il y a une certaine concentration. Et tant mieux, parce que même parmi les exilés, ils le disent, à Paris, on peut mourir de froid, mais on ne meurt pas de faim. Parce qu'il y a des gens, des bénévoles, il y en a suffisamment qui donnent de leur temps et qui font un travail extraordinaire.
Il y a quelque chose qui revient très souvent aussi, c'est pas seulement la question d'exilés, c'est aussi la question de pauvreté, d'injustice, de différence sociale. Dans ce livre-là, vous mentionnez beaucoup et vous dites finalement on est vraiment inégaux face à ça. Il y a vraiment cette question de... la littérature prend beaucoup de place. Hein. Vous dites quand on est pauvre, il n'y a pas de place pour la littérature. Donc c'est déjà presque une injustice. La question de la pauvreté aussi, dans votre livre, prend une immense place. Est-ce que...
Ouais. Et c'est une réalité. La pauvreté, c'est une barrière souvent invisible pour ceux qui ne la vivent pas tous les jours, mais c'est un obstacle majeur. Quand on est pauvre, on ne pense pas vraiment à la lecture tous les jours ou bien d'aller passer de participer à des colloques ou acheter des ouvrages. Non, je pense que la pauvreté, c'est une sorte de prison que le pauvre vit dans sa chair. Et cette réalité, je pense qu'à la longue, ça affecte le cerveau. Bon, je ne veux pas trop m'aventurer dessus, mais ça bloque vraiment l'individu dans son émancipation intellectuelle.
Mais avec toujours l'espoir, il est quand même toujours là. Je vous lis. La vie suivait son cours dans le tunnel, une vie lente, tortueuse, hésitante, sans éclat, une vie terne, mais une vie. On était tous suspendus à un espoir, on en souffrait, on déprimait. L'exilé peut vivre d'une attente maudite, passer son temps à rassembler des miettes de cet espoir éclaté. Humilié, rabaissé, rejeté, l'exilé espère malgré tout, pourchassé, emprisonné, bâillonné. L'exilé est toujours optimiste, à se demander de quel bois il est fait, a-t-il au moins un cœur, une dignité? Pourquoi pense-t-il, quand on lui dit non, que peut-être ce sera lui demain? Cet espoir est toujours là chez l'exilé.
Il est tout le temps là, c'est permanent, c'est cet espoir qui permet à l'exilé de tenir. Et ça, si on va plus loin, on peut même se dire que ça relève du fantasme. Mais l'exilé ne peut pas désespérer, il ne peut pas se le permettre en fait. C'est sa force principale, il vit avec cet espoir.
Taina Tervonen a dit le rapport qu'elle avait en disant vous avez dit tout à l'heure, je suis moi-même une exilée, une migrante, et de la même manière que les autres. Vous venez de dire quelque chose que j'allais dire, on ne vous connaît pas, c'est votre premier roman. De quelle manière vous vous impliquez? Vous venez de dire que vous avez fait des études de droit à Dijon.
Est-ce que c'est à Clermont-Ferrand.
À Clermont-Ferrand, pardon. C'est pas très, je sais. Est-ce que ces études de droit... Est-ce que le droit, le rapport à la justice finalement, a un peu influencé l'écrivain que vous êtes en devenir?
Peut-être bien, ouais. Il se peut, parce que les études de droit nous permettent de voir la société dans son ensemble. C'est mon point de vue, mais il suffit de lire Kafka, je pense qu'il n'est pas loin dans ça, lui aussi.
Il est là, Kafka.
Hein. Effectivement. Donc, C'est comme la sociologie, mais les études de droit nous permettent vraiment de voir l'état de la société en temps réel. Donc, je pense que oui, ça m'a beaucoup aidé dans, dans l'écriture de ce roman.
Le procès de Kafka, précisément, qui est dans ce livre-là. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ou des remarques? On a quelques minutes pour Amadou Barry ou pour Taina Tervonen sur cette question des veilleurs. Là. Alors, normalement, il y a un micro, je crois, qui se... Sinon, je peux...
Bonjour.
Bonjour.
J'avais une question pour Monsieur Barry que j'ai notée, mais après ça concerne le choix de l'écriture, en fait, le choix du livre, parce que vous avez parlé à un moment donné du fait que le choix d'écriture que vous avez fait du roman concerne, vous n'avez pas trop voulu parler du réel et vous n'avez pas trop voulu aller dans la fiction, si j'ai bien compris, en début de questionnement. Vous vouliez faire quelque chose qui était entre les deux. Et du coup, je voulais savoir, en fait, quel est le but, du coup, d'avoir écrit ce roman. Parce que si vous ne parlez pas des faits tels qu'ils sont, vous ne vous adressez pas forcément... Enfin, en tout cas, il y a une partie du lectorat qui ne sera pas forcément intéressée par ce que vous dites. Et si vous en parlez d'une manière un peu trop romancée, comme vous dites, vous avez peur de vous éloigner de la vérité. Donc... Enfin, c'est pour ça que je voulais savoir quel est le but en vrai du roman et aussi à quel lectorat vous adressez. Parce que si on s'adresse à un lectorat européen, blanc, et je me permets de le dire parce que voilà, je fais aussi partie de la société occidentale, j'ai l'impression que le choix de l'écriture, qui est un petit peu double, ne va pas... Enfin, va en fait pousser le lectorat à rester dans sa zone de confort parce que on ne va pas forcément se poser de questions. Mmh. En vérité, on va lire le livre, mais puisque c'est romancé, on n'aura pas forcément envie de se poser des questions pour savoir qui sont les exilés, comment est-ce qu'on peut s'intéresser, etc. Alors que si vous vous adressez à un lectorat peut-être diasporique, enfin, dont je fais aussi partie. Le fait de parler justement de l'histoire de l'exilé nous ramène en fait à notre condition. Donc ça, c'est une manière aussi en fait de nous rappeler la raison pour laquelle on est ici, quelles sont les motivations qui nous poussent à quitter un pays pour venir vivre dans un autre pays, etc. Et donc quelles sont les valeurs et les responsabilités qui vont avec. Donc, je questionne en fait ce choix de l'écriture qui est d'une part romancé et d'autre part réel. Voilà.
Mais ça okay. Je pense finalement, Amadou, puis après, Taina, vous aurez peut-être quelque chose à dire sur cette question.
D'accord. Merci. Amadou. Merci pour la question. Alors, je vais préciser une chose. C'est de la fiction, du début à la fin. Ça ne parle que de la fiction. Tous les personnages sont fictifs. C'est mon imagination. Donc, y a un roman qui m'a beaucoup accompagné dans l'écriture de ce texte. C'est Les raisins de la colère de Steinbeck. Et comme lui, j'ai décidé de faire de la fiction, mais en essayant de partir de quelque part. Donc, la question de savoir le sens du roman, et je pense que ça appartient à chaque lecteur. J'ai écrit un texte et je l'ai mis à la disposition des lecteurs. Donc, chaque lecteur doit, s'interroger par rapport au texte et donner son point de vue, s'en approprier ou pas. Donc... quand j'écris, bon, c'est mon premier texte, mais j'écris depuis quelque temps. Mais quand j'écris, je me laisse vraiment absorber par cette expérience. Et c'est pourquoi, quand vous lisez le texte, vous verrez, c'est en plus de l'exil, qui est un élément de ce texte, mais c'est surtout de l'amitié que ce texte parle. Et c'est volontaire, j'ai voulu ça, j'ai voulu vraiment garder ce cap. En plus de l'exil, c'est l'amitié, le lien fraternel entre deux personnes exilées. Et en plus de ça aussi, dans le texte, vous verrez que j'ai essayé de faire ressortir la situation dans laquelle les gens se retrouvent quand ils sont vraiment pauvres dans une société. Parce que dans ce tunnel, il y a aussi des citoyens de ce pays qui se retrouvent coincés là. Parce qu'à un moment donné, qu'on soit noir, blanc, jaune, exilé ou pas, quand on est pauvre, on est pauvre. Et ça, je pense que c'est une expérience que tout homme, même si, on ne traverse pas ces situations, tout homme peut imaginer une telle réalité. Donc, c'est vraiment de la fiction. Et là, je l'ai écrit pour le lecteur qui veut vraiment s'en approprier. Et puis, c'est tout, quoi.
On va finir avec vous, Taïna Tervonen, sur cette question de fiction et réalité, puisque vous êtes journaliste, donc vous êtes sur le terrain, il n'y a pas de fiction, normalement. Vous vous êtes déjà posé cette question-là, justement, sur finalement ce que le lecteur peut s'approprier et comment le lecteur peut se positionner, si j'ai bien compris, hein, c'était la question, face justement à un texte ou de fiction. Et je crois que la littérature peut avoir parfois bougé beaucoup de lignes, et parfois les grands textes d'imagination ont été très engagés et ont dit des choses importantes. Mais Taïna, pour vous, quelle position est-ce que vous vous posez cette question-là ?
Le travail de journaliste, enfin, quand on travaille avec le réel, c'est évidemment les questions se posent de façon très différente, peut-être plus simple d'ailleurs, d'une certaine façon, parce que le contrat avec le lecteur, le contrat avec la lectrice, c'est que ce que je raconte est vrai. Voilà. Et effectivement, ce que je raconte est vrai, c'est-à-dire si la voiture est bleue, elle est bleue dans l'histoire, elle ne va pas changer de couleur. Ça va jusqu'à ce détail-là. Après, moi, mon travail avec la matière, qui est donc des choses vécues, observées, écoutées, racontées, c'est de transformer tout ça en un récit qui puisse arriver jusqu'au lecteur et aux lectrices. Et voilà, mon rôle est à cet endroit-là. Et évidemment, là, se posent des questions de narration, et de mise en récit qui sont exactement les mêmes questions qu'on peut se poser dans la fiction, mais voilà, avec une matière qui est différente. Et la question du destinataire du texte, pour moi, est une question qui est importante, parce que j'ai conscience, surtout quand je travaille sur des textes relatifs à la migration, mais j'ai aussi écrit sur l'histoire coloniale. J'ai tout à fait conscience que moi, je m'adresse essentiellement à un public occidental majoritairement blanc et qui est ignorant d'un certain nombre de réalités et ignorant d'un certain nombre de faits historiques, et que donc ça nécessite de se poser la question de la narration, justement. C'est-à-dire, là, on peut écouter les veilleurs, parce que les veilleurs, d'une certaine façon, sont ceux qui sont en contact avec la réalité. Nous, on n'est pas en contact directement. Enfin, il y a cette espèce d'intermédiaire qui fait que c'est regardable et entendable. Il y a eu un autre récit sur les naufragés du 18 avril 2015, où se posait aussi la question de comment je fais en sorte qu'on puisse se projeter dans un protagoniste qui est quelqu'un qui est mort au moment où l'histoire débute. Et du coup, ce protagoniste est symbolisé par un téléphone portable qui était dans sa poche. Parce que là, on peut se projeter dans le téléphone portable. J'ai travaillé sur les disparus de la Méditerranée aussi à travers des récits de personnes en Espagne, en Grèce et en Italie qui sont confrontées aux corps qui arrivent. Alors ça, c'est un livre qui est paru en Finlande, puisque j'écris aussi en finnois, c'est ma langue maternelle. Et là, pareil, pourquoi je passais par ces personnes qui étaient des personnes en majorité blanche et occidentale, c'est parce que je m'adressais pour le coup à un public finlandais, même pas français, occidental, blanc, mais de là-haut, là. Encore plus ignorant d'un certain nombre de faits et éloigné de cette réalité-là. Et je savais que si c'est d'autres blancs qui leur parlent, ça leur parlera. Mmh. Voilà. Et c'est assez malheureux, d'une certaine façon, de devoir se poser ces questions-là. Et en même temps, si je ne me les pose pas, le récit ne passe pas. Voilà. C'était une réponse un peu longue.
Non, mais merci beaucoup, Taïna Tervonen. Les Veilleurs, 5 vigies autour des frontières aux éditions Marchiali. Et Amadou Barry, Journal d'un exilé, votre premier roman aux éditions Julliard. Pardon pour le petit retard. Merci à vous tous. Et les livres sont là et les auteurs restent là aussi.